J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grosstête et Rémi Pascal sur Radio B.
Bonjour Thomas.
Bonjour Rémi.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour la 5e chronique de Plat de Résilience et au début d'un nouveau chapitre.
Et de quoi va parler ce nouveau chapitre, Rémi?
Eh bien, après avoir parlé de notre histoire agricole et de nos terroirs, nous vous avons préparé un menu à base de yaourt à la fraise, de pétrole, de climat ou encore de vers de terre.
On va parler de notre système alimentaire.
Oui. Et pour ce nouveau chapitre, on met les pieds dans le plat pour se demander s'il fonctionne bien et est-ce qu'il est en bonne santé.
Donc on ne voyagera plus dans le temps alors?
Pour les 4 prochaines chroniques, Thomas, nous ne voyagerons pas dans le temps, mais dans l'espace.
Ouah, ça c'est du teasing qui claque.
Pour voyager dans l'espace, je crois que tu nous as concocté quelque chose.
Ah ben pour voyager dans l'espace, justement, je viens de réviser le téléportateur là, qu'on a utilisé dans l'épisode 1.
Malheureusement, au risque de te décevoir, pas la peine de le démarrer. On va voyager autrement cette fois-ci. Pas besoin de machine, mais d'un yaourt.
Un yaourt?
Et pas n'importe lequel, Thomas. Un yaourt à la fraise que j'ai justement, hier, acheté en supermarché.
Non mais Rémi, on ne voyage pas dans un yaourt, enfin.
Tu es sceptique parce que ce n'est pas ton arôme préféré. Mais je suis désolé, il n'y avait plus de yaourt à la rhubarbe.
Bah, tu m'as dit en coulisses juste avant qu'il fallait montrer que notre système alimentaire est hyper complexe. Et là, tu me parles d'un simple yaourt.
Thomas, il y a quoi dans ce yaourt?
Je peux lire la liste des ingrédients?
Oui, je t'en prie.
Bon, alors, lait crémé, crème, poudre de lait, protéines de lait, oui. Ferment lactique, fraises, sucre, jus de carotte... Amidon transformé de maïs, voilà. Épaississant et de l'arôme. Ça fait beaucoup de choses pour un simple yaourt.
Regardons plus attentivement chaque ingrédient. Pour tous les ingrédients issus du lait, il faut...
Une vache?
Une vache. En France, le lait provient surtout des vaches blanches et noires qu'on appelle les Primolstein. Tu sais, c'est celles qu'on voit par la fenêtre du train quand on traverse la campagne. On les nourrit généralement avec des céréales, du maïs et du soja. Le soja vient surtout d'Amérique du Sud qu'on importe. Et pour faire pousser toutes ces plantes, on a besoin d'engrais, et notamment de phosphore qui vient de mines au Maroc, et d'azote fabriqué avec du gaz. Et puis bien sûr, il faut traire la vache et transporter le lait, ce qui va demander de l'énergie. Je te sens dubitatif, Thomas.
Ouais, un peu là.
Bon, attends, je continue. La fraise vient surtout d'Espagne, où elle est produite en serre, hors sol, dans la région d'Almeria, tout au sud. Et dans cette région, il est reconnu que la main-d'œuvre, majoritairement issue de l'immigration, a très souvent de mauvaises conditions de travail. Ensuite, il nous faut du sucre. Lui, il est issu de la culture de betteraves qui pousse dans le nord de la France. Tu sais, les champs de betteraves à perte de vue. Et puis enfin, il faut avoir du jus de carotte et de l'amidon de maïs. Et pour ça, c'est très simple. Il te faut des carottes et du maïs. Et aussi des usines de transformation pour récupérer le jus et l'amidon. Donc que ce soit les betteraves, le maïs ou les carottes, on a aussi besoin d'engrais pour les faire pousser. Et donc pour ces engrais, on a besoin d'énergie pour les fabriquer ou les extraire du sol.
Alors... Ah ouais, d'accord, je crois que je commence à comprendre là.
Ah, ça me fait plaisir. Mais attends, j'ai pas terminé. Il y a aussi 2 épaississants qui rentrent dans la composition du yaourt. Et ils vont apporter de la texture. L'un, c'est la gomme de goire. C'est une légumineuse, donc une plante, qui est souvent cultivée en Inde ou au Pakistan. Et l'autre, c'est les caragénanes. C'est des algues qui sont essentiellement cultivées en Chine et aux Philippines. Et pour finir, bah, il faut de l'arôme de fraise. Et lui, il est fabriqué dans une usine de pétrochimie. Et ça, il y en a plusieurs en France.
Ouais, alors attends, si j'ai bien compté, il te faut 10 de plantes cultivées sur 4 continents et beaucoup d'usines et de transports pour faire ce yaourt.
Et avec tout ça, on a à peine fabriqué le yaourt. Il faut maintenant le distribuer dans les supermarchés.
On a encore besoin de plein de camions.
Et beaucoup de camions, Thomas. Près d'un camion sur 3 en France transporte quelque chose qui se mange. On a aussi besoin de plateformes logistiques pour aller redistribuer cette nourriture vers les supermarchés.
Ok, là, enfin, on peut aller acheter notre yaourt.
C'est ça, mais 90% des achats alimentaires se font en supermarché. Et comme on va faire généralement ses courses en voiture, jusqu'au dernier moment, on a besoin d'énergie pour aller se nourrir.
Ouais, il faut aussi de l'électricité ou du gaz pour faire marcher le frigo, la plaque de cuisson.
Ou la friteuse, évidemment.
Ouais, enfin, moi qui pensais que faire ce yaourt, c'était simple.
C'est tout ça qu'il y a derrière notre alimentation. Beaucoup de personnes, beaucoup de cultures et d'animaux, beaucoup d'usines et beaucoup de transports. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est complexe et que ça consomme beaucoup d'énergie.
Oui, donc le système alimentaire, c'est tout ce qui nous permet de nous nourrir alors.
C'est toute la chaîne.
De la fourche à la fourchette.
Mais ça va même plus loin. Il y a d'abord les intrants dont on a besoin pour faire pousser des plantes et élever des animaux. Ça, il y en a plein, hein. Pour faire de l'agriculture, il faut des engrais, du pétrole, mais aussi des machines et du matériel agricole. Ensuite, il y a bien sûr la production agricole. Donc pour ça, les agricultrices et les agriculteurs. Et ensuite, il y a toutes les entreprises qui transforment la nourriture.
Oui, transformer la farine en pain ou la viande en steak haché.
Par exemple. Et vient ensuite les entreprises de distribution alimentaire que l'on connaît bien.
Leclerc, Carrefour, Intermarché, Hyper-U, Auchan...
Et c'est pas fini. Il y a aussi tout ce qui te permet de consommer la nourriture. Donc les appareils de nos cuisines, les restaurants, les cantines, etc. etc. Et tout ce beau monde produit des déchets qu'il faut gérer.
Ouais. Sans oublier le secteur du transport qui a toutes les étapes transportent des trucs qui se mangent.
C'est ça. Et puis aussi, il y a les politiques au niveau français et européen qui gèrent notre alimentation et notre agriculture. En bref, ça en fait beaucoup du monde. Et un des objectifs de notre chronique est de comprendre que ce qui nous permet de, manger hein, tous les jours ne s'arrête pas simplement au supermarché et à l'agriculteur qui cultive ses tomates. C'est un vaste réseau d'acteurs entremêlés qui dépend les uns des autres.
Donc les supermarchés, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg.
C'est pour ça qu'il faut regarder tout l'iceberg si on veut comprendre comment notre nourriture arrive dans notre assiette.
Bon, tu sais que j'aime bien les jeux de mots, Rémi.
Ça, je sais, c'est pour ça qu'on s'entend bien, Thomas.
Bon alors du coup, comment il va cet iceberg? Est-ce qu'il serait pas un peu en train de fondre?
T'as regardé Titanic hier soir ou... Non, je sais qu'elle te plaît bien cette métaphore de l'iceberg. Pour que tout ce beau monde fonctionne, autrement dit fabriquer des engrais pour les plantes, allumer son tracteur, faire tourner une usine, transporter la nourriture jusqu'au supermarché, ou faire tourner les frigos des restaurants et de sa cuisine, il nous faut beaucoup d'énergie.
Beaucoup, c'est-à-dire?
Ben on a besoin aujourd'hui de pétrole, de gaz et d'électricité. Et si on convertit toute l'énergie en pétrole, on aurait besoin, pour faire fonctionner notre système alimentaire, de, accroche-toi, 31,6 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Est-ce que tu te rends compte?
Pas vraiment.
Eh ben, moi non plus. Attends, j'utilise ma super calculette, elle va me le convertir en piscine olympique.
Putain, super ta calculette!
Ah oui, écoute, elle est super, je l'ai eue à Noël. Ah voilà, ça fait 30 200 piscines olympiques de pétrole pour faire fonctionner notre système alimentaire. En gros, c'est l'équivalent de tout le pétrole que l'on a importé en 2020 en France sur le territoire.
Ah ouais, donc il faut énormément d'énergie pour se nourrir.
Si on simplifie, les tracteurs et les camions fonctionnent au pétrole, les usines et les frigos à l'électricité, et pour fabriquer des engrais, on a besoin de gaz. Donc cette dépendance aux énergies pose problème. Surtout celle au gaz et au pétrole, parce qu'on n'en a pas sur notre territoire. Donc on importe tout ce que l'on consomme.
On est dépendant d'autres pays pour manger.
C'est pour ça que quand la Russie envahit l'Ukraine en février 2022 et que l'Europe décide de ne plus importer de gaz russe, ça va nous poser problème. Les engrais azotés sont nécessaires pour faire pousser les plantes et garantir des rendements élevés, hein, les rendements élevés qu'on a en France et en Europe de manière générale. Or, avant le conflit, l'azote utilisé dans notre agriculture est importé de Russie et d'Ukraine, ou alors on le fabrique en Europe à partir de gaz russe qu'on importe.
Et on a fait comment alors? On est allé se fournir ailleurs?
Bah, l'Europe a alors importé des engrais azotés du Vietnam, d'Égypte, d'Oman, d'Australie, mais aussi des États-Unis, et surtout des États-Unis. Problème, l'azote qu'on a importé pollue plus que celui fabriqué à partir de gaz russe. À titre d'exemple, une tonne d'engrais américains rejette deux fois plus de CO2 que les engrais russes.
Ça, j'imagine que c'est parce que les États-Unis utilisent du gaz de schiste, hein, plus polluant que le gaz russe.
C'est ça.
Donc si je comprends bien... À cause de la Russie, on a failli plus manger de yaourt.
Il n'y a pas eu de pénurie alimentaire en Europe, parce qu'elle est allée chercher des engrais ailleurs. À part un manque de moutarde en France dans certains supermarchés, et qui ne s'explique d'ailleurs pas qu'à cause du conflit, on a manqué de rien. C'est le commerce international qui a permis d'éviter les pénuries.
Oui, c'est ce que tu avais dit, il me semble, dans la troisième chronique. Le commerce peut éviter de manquer de nourriture.
Par contre, ce qui a été évité en 2022 ne le sera peut-être plus dans 15 ans, avec un changement climatique qui diminue notre production alimentaire. Aujourd'hui, le système alimentaire européen, il est costaud, parce qu'il est connecté au reste du monde. Mais notre dépendance européenne, au gaz, a fait plus augmenter le prix des engrais en Europe que dans le reste du monde en 2022. Donc, la diminution des engrais, le prix des énergies qui augmente, le manque d'eau et la raréfaction des ressources minières ne vont pas arranger les choses.
Ouais, sans oublier les conflits géopolitiques qui peuvent nous priver de certaines ressources du jour au lendemain.
Tu penses à quelque chose en particulier ?
Mais je pense au phosphore, j'ai vu un documentaire là-dessus. C'est avec l'azote un engrais indispensable pour l'agriculture. Mais contrairement à l'azote, on l'extrait de mines et pas de l'atmosphère. C'est donc une ressource non renouvelable.
Ouais, je vois où tu veux en venir. C'est le Maroc qui détient les plus grosses ressources mondiales de phosphore. Et c'est à lui qu'on achète quasiment tout ce que l'on consomme en France. Donc si demain le Maroc décide de ne plus nous en vendre, eh ben, on est marrant.
Ouais. Malgré tout ça, on n'a pas manqué de nourriture en Europe. Mais la nourriture coûte plus cher qu'avant.
La hausse des prix des engrais, des carburants, du gaz et des matières premières agricoles, avec en plus un Covid qui est passé par là, a fait augmenter les prix pour les consommateurs. Donc plus notre nourriture est dépendante de l'énergie fossile, plus elle risque de coûter cher dans un monde où le prix des énergies n'est pas prêt de diminuer. Donc si nos yaourts étaient produits sur les fermes à côté de chez nous, avec moins d'ingrédients, on serait sûr d'en avoir tout le temps, problème géopolitique ou non. Après tout, pour faire un yaourt, on a besoin que de lait, de ferments lactiques, de sucre et de la fraise si on veut faire un yaourt à la fraise. Et tout ça, on peut le produire sur notre territoire.
Ouais, on pourrait simplifier la composition de certains produits.
Ben, posons-nous plutôt la question de l'utilité d'importer des plantes de l'autre bout du monde pour faire un yaourt qu'on peut produire sur notre territoire avec moins d'énergie.
Et est-ce qu'il sera plus cher ce yaourt de nos territoires ?
Ben, difficile à dire, mais on ne paiera sûrement à l'avenir pas notre alimentation moins chère. Mais tu observeras qu'acheter certains produits directement aux producteurs peuvent être moins chers qu'en supermarché, notamment tout ce qui n'est pas transformé. Les produits des supermarchés sont issus de filières longues, très dépendantes du transport. Donc l'augmentation du prix de l'essence fait plus augmenter leur prix que ceux des produits venant de l'agriculteur du coin. Il y a derrière des questions d'économie d'échelle avec les produits des supermarchés, parce que c'est des filières très longues avec beaucoup de gens. Mais bon, c'est trop compliqué pour aujourd'hui.
Ouais, d'ailleurs, je me posais une question. Quand je vais au supermarché, qu'est-ce que je paye vraiment à la caisse ?
C'est une super question, Thomas. Et j'ai un scoop. Sur les 100 euros de course que tu fais, environ 10% revient à l'agriculture. Le reste sert à payer le transport, le commerce, la transformation du produit, l'emballage, les importations de nourriture étrangère, etc. etc.
Ouais, donc c'est pour ça qu'ils sont pas contents, les agriculteurs, ils gagnent pas assez à cause de ce système.
Bah c'est entre autres pour ça. Ce que l'on paye au supermarché, c'est tous les acteurs du système alimentaire. Et comme c'est un système alimentaire complexe avec beaucoup de monde et que tout ce beau monde dépend de l'énergie, ben...
Ça se répercute sur les prix. Ouais, je crois que j'ai compris. Bon, j'ai tellement bien compris, Rémi, que je crois que je suis chaud pour te résumer la chronique.
Attends, tout seul comme un grand ?
Tout seul comme un grand.
Je suis tout oui.
Bon alors, notre nourriture arrive dans notre assiette grâce à un système alimentaire complexe, connecté au reste du monde et très dépendant des importations d'énergie fossile et de ressources non renouvelables.
Et de 1.
Moins on est dépendant des autres, moins on encourt de risques. Donc, plus notre nourriture est dépendante de l'énergie fossile et des autres pays, plus on prend de risques que son prix augmente et qu'on ait des problèmes d'approvisionnement.
Et de 2.
Et si on veut garantir une nourriture accessible à tout le monde et une rémunération décente aux agriculteurs, on a tout intérêt de diminuer notre dépendance à nos importations et donc à reterritorialiser nos filières.
Et de 3, tu as le tiercé gagnant.
Yes ! Avec tout ça, on construira réellement la résilience alimentaire de nos territoires. Autrement dit, notre capacité à nous nourrir, quoi qu'il arrive.
On espère que cette chronique vous a donné de l'énergie.
Retrouvez cette chronique sur le site de Radio B. Vous trouverez sur la page internet de l'émission plein de ressources pour aller plus loin. On se retrouve le mois prochain pour parler prix, revenus et précarité autour de l'alimentation.
Impossible de faire l'économie de cette prochaine chronique. À bientôt, c'était Rémi Pascal.
Et Thomas Grostet.
J'aime beaucoup les pommes. Je mange un bout de pomme.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité ? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique il y en a de plus en plus.
Plat de résilience.
Présenté par Thomas Grosstête et Rémi Pascal sur Radio B.